Actu SF, les podcasts.
Nous allons devoir commencer sans elle, malheureusement, puisqu'il est déjà quand même 15h10. Nous sommes tous bercés depuis l'enfance par la culture états-unienne, essentiellement par la culture populaire. Qui n'a pas vu les dessins animés de Walt Disney, les westerns, les comédies romantiques? Qui n'a pas lu les polars, les thrillers, la science-fiction américaine? Qui n'a pas écouté la musique, le rock, le rap, le jazz, le blues? Cette culture nous accompagne depuis toujours au point que nous avons tendance à la faire nôtre. Les auteurs qui nous accompagnent aujourd'hui pour parler de l'influence de cette culture en ont emprunté les codes et les références pour écrire leur dernier roman. Sylvie Miller est l'autrice de Satinka, roman initiatique mettant en scène les déboires d'une jeune femme avec la mémoire de sa région, la mythologie des trains, celle des Amérindiens, celle des Sino-Américains qui lui permettront de trouver sa propre identité. Xavier Mauméjean nous offre, après Lilliputia et American Gothic, La société des faux visages, une rencontre entre Sigmund Freud et Houdini autour d'une enquête sur une disparition en chambre close. Fabien Fernandez a écrit Détroit et Dust Bowl, présentant la fracture sociale et économique d'une ville ou d'un pays, la perdition, la déliquescence, le désastre, ce que Paolo Bacigalupi appelle la pornographie du désastre et de l'horreur. Vous avez tous les trois emprunté à la culture et à la mythologie états-unienne les différents éléments qui forment la trame de vos ouvrages, qui mettent en scène des lieux, des époques, des événements mythiques, des héros légendaires, des minorités plus ou moins visibles qui nous parlent des États-Unis, mais aussi de notre propre imaginaire. Et quel est votre lien avec ces mythologies? Fabien, tu commences?
Cuba. Mon lien avec la mythologie, je ne sais pas, c'est...
La mythologie américaine.
Oui, évidemment. Avec la mythologie américaine, je crois que... Déjà, on a... été bercé par le cinéma américain qui nous donne déjà pas mal de codes, d'ailleurs souvent faux sur le pays. C'est à partir de ça, des westerns ou des séries américaines que j'ai dû commencer à m'y intéresser. Et puis il y a quelques années, je suis surtout tombé follement amoureux de la Nouvelle-Orléans. Et du coup, j'ai pu m'y rendre et donc... Passer le côté à travers le mythe. Donc, on en parlera peut-être après, mais voilà, de passer du mythe et des idées reçues qu'on a, nous autres Européens, à la réalité, ça change pas mal de choses et d'où, je pense, mon approche un peu plus sociale dans l'écriture.
Xavier, c'est ton lien au frics, au cinéma de hollywoodien, au New York du début du siècle?
En fait, moi, je trouve ton introduction très bien. Résume mon parcours. Moi, je suis arrivé comme beaucoup d'Européens à travers tous ces filtres culturels par tous ces filtres culturels. Merci. Et par exemple, avec même des effets assez étonnants de rétroaction. Par exemple, Blanche-Neige, on le connaît, mais en fait, nous, Européens, peut-être mieux à travers le chef-d'œuvre de Walt Disney, c'est ça qui est intéressant. Et oui, moi, j'ai ressenti le besoin d'écrire une trilogie freaks sur les États-Unis, mais justement, dans les trois, le personnage principal ou les personnages principaux sont Européens. Ça, c'était très important de manière à justement conserver la distance, les malentendus, etc.
Et Sylvie, ton lien aux Amérindiens ou aux Sino-Américains?
Alors, j'ai envie de dire qu'au départ, mon lien, il était plutôt... J'ai plutôt un lien avec les Irlandais, parce que j'ai des origines irlandaises. Un peu ancienne, mais néanmoins. Moi, en fait, l'Amérique, j'ai vraiment été bercée par l'Amérique dans mon enfance. Toute petite, je regardais Zorro, par exemple. Ah, ça, c'était le truc du jeudi, Zorro. Les cow-boys, les Indiens, le western, les grands espaces, tous les films des années 50-60 où il y a des grandes épopées comme ça, avec en plus des parents qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. L'Américain, c'était le sauveur, c'était les GI qui étaient venus. Et donc, il y avait cette espèce de fascination pour l'Amérique, ce grand pays, puis l'image qu'on en donnait des colons qui étaient allés là-bas. Je me suis penchée sur l'histoire de l'Irlande, donc la famine de la pomme de terre, tous ces Irlandais qui partaient, tous ces gens qui faisaient la grande traversée de l'Est vers l'Ouest. Enfin, voilà, j'avais plein d'images dans la tête. Et j'avais en même temps des interrogations par rapport aux Amérindiens, puisque évidemment dans les films, à chaque fois, il y avait le bon cow-boy, le méchant indien, il y avait ces guerres. Et finalement, c'est un peuple qui a été d'une certaine façon exterminé. Enfin voilà, je me posais beaucoup de questions. Et c'est ce qui fait que j'ai fait des recherches. Et j'ai aussi été passionnée, parce que là aussi, il y avait des films là-dessus, par la construction de la voie de chemin de fer. De cette première voie de chemin de fer Est-Ouest qui a demandé un travail colossal et qui était vraiment une prouesse technique pour l'époque. C'est là où j'ai découvert qu'on avait fait venir effectivement des milliers d'ouvriers chinois qui ensuite sont restés et qui se sont fondus dans la société états-unienne. Et donc c'est un petit peu toute cette curiosité-là qui fait que j'ai creusé pour aller écrire cette histoire de Satinka.
Quel est votre mythe personnel en lien à cette Amérique fantasmée?
Tu peux définir mythe personnel?
Le mythe qui vous parle le plus, qui vous inspire le plus?
Je crois que c'est le gigantisme américain, que ce soit dans les paysages, dans tout ce qui est sauvage, parce qu'on va... C'est difficile déjà d'aborder déjà en une heure les États-Unis et surtout son mythe, parce que on parle de ces personnes, on parle de l'esclavage, on va parler donc des Amérindiens. J'ai travaillé pas mal mais en jeu de rôle sur les Amérindiens et les génocides qu'il y a eu, puisque faut employer les bons termes. Et à partir de là, il y a le wild aussi qui est un sujet presque sans fin quand on parle des États-Unis. Et je crois que c'est le mythe personnel, c'est plutôt le point de départ, qui est une porte ouverte sur tellement de choses et sans fin qu'on a envie d'explorer sans cesse. Puis pousser, du coup, à chaque fois, on revient sur ces histoires de cinéma ou autre réalité. Mais ouais, ça serait le côté porte ouverte sur l'infini, quoi.
Xavier ?
Moi, c'est vraiment un mythe personnel. C'est à l'âge de 7 ans, j'ai découvert un livre qui s'appelle, s'il est plus publié, Mémoire d'un avaleur de sabre. Et ça m'a complètement grillé la tête. C'était dans ces petits cirques des années 30 qui sillonnaient les États-Unis. Il y avait un jeune journaliste un jour qui assiste à un numéro de cracheur de feu. Et le cracheur de feu, parce qu'à l'époque, on fait vraiment avec de la gasoline, etc. Il explose, quoi. Et tout le monde rit, évidemment, dans le public. Et c'est un autre imaginaire, c'est d'autres réactions. Et ce jeune journaliste, quelqu'un sur la scène lui dit « Oh, tu pourrais faire le malin, viens nous rejoindre ». Il le fait. Et ce livre m'a vraiment non seulement fasciné pour la mythologie américaine qui est la mienne et qui est une mythologie, tu l'as très bien dit, freak, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais de manière générale, ça a influencé mon imaginaire tout court. Et à partir de là, et toujours baigné, nourri de tout ce qui nous nourrit ici, les westerns, la musique, etc., j'ai commencé à m'intéresser aux coulisses de cet imaginaire. Par exemple, deux détails qui sont fascinants, c'est que pour le film Bambi, les studios Walt Disney, ils ont écorché un faon. Et donc ils ont comme ça observé ce qui fait la grâce et la beauté de Bambi dans le dessin animé, le délié des mouvements, c'est qu'ils ont écorché un faon. Et il y avait un spécialiste d'anatomie qui avait été engagé pour, qui leur disait regardez comme c'est bien fait, etc. Et comme ils n'allaient pas écorcher 10 faons, c'est le même faon qui a servi à faire tout leur schéma préparatoire. Et donc il a fini dans un conteneur à ordures des studios Disney. C'est ça qui me passionne, voilà, ça y est, derrière Bambi il y a le cadavre d'un fond dans un conteneur à ordures. Oui, c'est l'Amérique, voilà. Un autre exemple, il y a un dessin animé où on voit Betty Boop, alors que Betty Boop, c'est plutôt contre-culture, hein, c'est influencé par l'expressionnisme allemand, c'est très noir, très psychanalytique. On la voit danser, elle apparaît, etc. Et elle vante les mérites de la chaise électrique. Elle a fait une publicité pour la chaise électrique. Bah, c'est ça qui m'intéresse.
Alors moi, je peux pas parler forcément de mythe personnel, mais bon, j'ai des images dans la tête. Effectivement, comme tu le disais, c'est surtout le gigantisme. En fait, on est sur une autre échelle que notre échelle à nous, avec la France, qui est un tout petit pays par rapport à... effectivement à la taille des États-Unis. Et donc c'est en fait ce pays où des gens sont arrivés, ils étaient de chaque côté, il y en avait à l'est, il y en avait à l'ouest, et cette frontière, il y a effectivement peut-être ce mythe de la frontière qui a reculé au fur et à mesure, et où à un moment donné, ben, ça s'est rejoint, et notamment justement avec la construction de la transcontinentale qui a commencé à permettre des échanges économiques entre l'Est et l'Ouest, et donc de l'évolution de ce pays par sa taille, par ses paysages extrêmement variés, forcément on est à l'échelle du continent.
Agnès nous a rejoint, donc Agnès Marot, romancière essentiellement pour la jeunesse, autrice de Quelques pas de plus, qui présente la vie de jeunes filles brisées, qui ont recours à leurs ascendances navarro pour essayer de s'en sortir. Alors je vais vous poser la même question qu'aux autres. Quel est votre lien avec ces mythologies?
Bonjour. Alors mon lien est finalement assez faible à la base parce que en fait j'ai toujours été friande de lecture littérature amérindienne, mais sans en avoir lu plus que ça non plus. Et en revanche, il y a 3 ans maintenant, je suis partie en voyage dans cette région-là. J'étais à Béquille, comme l'était à l'époque, comme le sont mes héroïnes dans le roman, et j'ai vraiment eu un choc dans ce territoire navarro. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est dégagé du paysage que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Peut-être l'immensité, mais aussi les couleurs, les gros rochers rouges, le sable rouge. En même temps aussi des tonnes de nuances d'orangé, de jaune. Tout ça se dégage quelque chose de vraiment magique. Et pourtant, je suis assez peu sensible à ça normalement. Et du coup, ça m'a donné envie de creuser, en fait, Et une fois rentrée de chez moi, je cherchais comment j'allais faire un roman sur cette région-là qui m'avait tellement marquée. Et donc j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur leur mythologie, leur façon de vivre, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au cœur de la façon de vivre des Navarros en particulier, il y avait cette notion de ozo, qui est en fait une harmonie entre soi et la nature et qui permet de garder la santé. Or, comme je cherchais aussi à l'époque un moyen de faire un roman avec une héroïne à béquilles, j'ai fait un roman avec mes deux idées, en fait. Donc le lien est vraiment venu après mon voyage, en fait.
Et quel est votre mythe personnel en lien avec cette Amérique fantasmée?
C'est cette journée, en fait, que j'ai passée à Monument Valley. On avait pris un camping dans Monument Valley qui donne vraiment directement sur toute la zone. Donc déjà, se réveiller avec le lever du soleil sur les grands rochers qu'on voit dans les films de Far West, etc., ça a quelque chose de magique. Et donc j'expliquais qu'à l'époque j'étais à béquilles, je ne pouvais pas marcher plus de 5 minutes sans mes béquilles sans avoir mal. Et pendant toute cette journée que j'ai passée à visiter Monument Valley, je n'ai pas utilisé mes béquilles une seule fois. J'en ai pas eu besoin. J'ai pas ressenti une seule douleur de toute la journée. Et du moment où on a quitté la zone pour retourner dans la suite du road trip, j'ai dû réutiliser mes béquilles. Pour moi, il y a vraiment quand même quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas dire pourquoi, si c'est leur fameux sable rouge ou autre chose. Mais ça, c'est ça mon mythe personnel. Ouais.
Et quelles sont vos influences, que ce soit au niveau musical, au niveau littéraire, au niveau... cinématographique par rapport à nouveau aux États-Unis, à cette mythologie mondiale en quelque sorte?
On a 2 ou 3 heures ou... bon, alors voilà, j'ai commencé par dire que j'étais amoureux de la Nouvelle-Orléans. Bon, donc voilà, le jazz, le blues, c'est vraiment l'âme des États-Unis aussi. En creux, sur Détroit, en fait, je me suis intéressé à la ville et j'ai, en creusant, pas beaucoup, mais je connaissais pas bien au début. Ce qui m'intéressait, c'était le côté morcelé de la ville, mais j'ai découvert tout un pan musical tellement riche que j'ai dû faire de la place dans mon cerveau pour stocker ça. Et puis, en termes plutôt cinématographiques, moi, je suis plutôt assez fan de David Simon, donc le créateur des séries The Wire, The Corner, Trimé, ce genre de séries qui sont très sociales, très humaines, parce que c'est un peu l'humain qui m'intéresse dans tout ça. Et pour Dust Bowl aussi, évidemment, une des sources vraiment d'inspiration, c'est la série Carnival de Jeff Knopf, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, mais je vais faire court parce que sinon je vais monopoliser la parole et qu'on est tous un peu comme ça.
Moi, je pense que ma grande influence littéraire américaine, c'est Sélection du Reader Digest. Parce que ça n'agit. Je pense que d'ailleurs, toute mon écriture, elle provient en grande partie de Sélection du Reader Digest, notamment. Le fait que, par exemple, dans un fascicule, on pouvait avoir un condensé de roman sur un alpiniste qui a failli perdre sa jambe et est resté 10 jours en haut d'un saut. Après, il y avait une page d'histoire drôle. Après, il y avait « Apprenez à opérer votre voisin à cœur ouvert dans votre garage ». Après, il y avait « En 1962, les Américains seront sur la Lune », des choses comme ça. Et je pense que le télescopage par le lecteur, la fusion de ces textes qui ont complètement rien à voir entre eux, qui sont hétérogènes, ça a beaucoup participé à l'élaboration de mon écriture.
Alors, je pense que ça, c'est générationnel, hein, parce que Sélection du Reader's Digest, on est un certain nombre à avoir été baignés là-dedans. Effectivement, mes parents achetaient ça aussi et je mettais le nez. Et c'est vrai qu'on découvrait beaucoup, beaucoup de choses. Ça interrogeait. J'ai un ouvrage que j'avais lu à une époque qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, qui avait été écrit par l'épouse de Alfred Kruber, donc un universitaire qui a été notamment à l'origine de nombreuses études amérindiennes et qui parlait d'un indien Yahi qui était à l'époque supposé être le dernier de sa tribu, qu'on avait trouvé dans la nature tout seul et qu'il avait hébergé dans son musée donc, au département d'anthropologie pendant 4 ou 5 ans avant qu'il meure de la tuberculose. Au tout début, je crois qu'il est mort en 1905, quelque chose comme ça. Et où donc il a vraiment étudié, recueilli la parole de cet Indien et ça m'avait vraiment marqué. Sinon, j'adore la country. Donc j'en écoute. Oui, je sais, tu peux partir, mais bon. La country un peu moderne, mais enfin voilà, il y a du très bon. Sinon, il y a tout le cinéma américain des années 50, 60, où il y a des choses aussi qui ont baigné mon enfance et que j'ai beaucoup aimé. Il y a les romans noirs, ça on le retrouve plus dans la serre, tous les polars noirs années 30, années 40, avec des personnages de détectives très très intéressants. C'est vraiment toute la musique pop des années 70 avec des groupes mythiques aussi. Enfin voilà, c'est un petit mélange de tout ça, mais dans lequel on a tous aussi plus ou moins baigné.
Moi je vais pas mal diverger, parce que beaucoup de références dont j'ai entendu parler, mais qui ne sont pas forcément les miennes. Pour quelques pas de plus en particulier, mes grosses références, ça va être la pop culture, que je cite d'ailleurs globalement dans le roman, parce que mon héroïne est une fan de pop culture. Donc il y a l'incontournable Supernatural quand on fait un road trip qui se passe aux États-Unis pourchassé par des monstres. Il y a Bibi P. Coyote pour la partie amérindienne qui a inspiré une partie de mon méchant parce qu'il est fait à partir du personnage de Coyote qui est une figure très très forte de la mythologie navarro et qui a énormément de visages très variés que j'ai retrouvé notamment dans des contes amérindiens. Alors là c'est un peu plus sérieux. J'ai lu beaucoup de contes amérindiens. Il n'y a pas deux fois la même version du même conte parce que c'est une culture orale. Donc déjà en trouver une version écrite c'est difficile. Et quand on en trouve, si on en trouve une deuxième, ce ne sera pas la même. Et à chaque fois, le personnage de Coyote a une facette différente. Donc il peut être parfois un personnage bénéfique, parfois maléfique. Parfois maléfique, mais finalement c'est un mal pour un bien. Parfois il est un peu con-con, comme dans Bibi et Coyote, et en même temps il nous fait beaucoup rire. Et donc moi c'est vraiment, j'ai beaucoup creusé ce personnage-là, donc j'ai lu pas mal de contes que j'ai pu trouver, j'ai regardé les représentations, comment elles sont faites sur les peintures Navarro, et voilà, mélanger tout ça avec un peu de pop culture, un peu de séries américaines, et voilà, ça fait un joyeux mélange de références un peu hétéroclites.
Et comment avez-vous travaillé cet ancrage américain ? Avez-vous fait des recherches sur les lieux, sur les peuples, sur les circonstances que vous mettez en scène ? Avez-vous été aux États-Unis ou vous êtes-vous contenté de documentaires et de documentation ?
Pour Détroit, je n'ai pas été sur place. Je me baignais dans la documentation. Il y a un outil qui est merveilleux aussi qui s'appelle Google Earth. C'est génial parce qu'on peut se balader dans les rues d'une ville. Google Street. On peut décrire ainsi juste en deux, une façade de maison ou autre, et on y est déjà avec un nom de rue. Et on a l'impression, enfin, on donne l'impression d'y avoir été. Et la documentation sur Détroit est sans fin, surtout que j'ai aussi pas mal creusé sur l'urbex et ce genre de choses. Et la musique, donc, sur les références, il y a un petit truc très sympathique. Un chanteur qui s'appelle Rodriguez, qui a fait une espèce de revival depuis peu et qui était ignoré complètement chez lui. C'est du rock 70s. C'est un chanteur local et il avait fait une ou deux cassettes, je crois, peut-être un disque. Et ça n'a pas du tout marché. Du coup, il a repris son job à l'usine, comme pas mal de gens de Détroit. Et puis, en fait, on lui a dit que c'était une star internationale, qu'il avait... Vous voyez le film Sugarman, ça résume tout ça. Et en gros, c'était une star surtout en Afrique du Sud. Et du coup, maintenant, il a fait un revival. C'est pas forcément gagné, mais bon. C'était mieux avant, on va dire. Et pour Dust Bowl, c'est pareil. C'est beaucoup de documentation, mais comme j'essaye de mettre plus des ambiances, j'essaye de picorer à droite, à gauche. Et Dust Bowl, c'est une époque, donc c'est la... C'est la Grande Dépression, c'est le sud des États-Unis, l'Oklahoma, des tempêtes de sable. Et il n'y a pas énorme de documentation écrite. Il faut aller chercher dans les petits journaux, les choses comme ça. Il faut du coup se documenter sur du Steinbeck, des romans un petit peu, un peu sociaux comme ça. Et en revanche, il y a l'avantage là-dessus, c'est qu'il y a des photographes d'époque, Dorothy Lange, donc, qui passe dans mon roman comme ça en guest star, ou Walker Evans, qui donne des images d'une époque très très forte. Et à partir de ça, on peut broder pas mal de choses.
Il y a même eu un film au début des années 80 sur les tempêtes de sable en Oklahoma.
Ouais, il y a des documentaires. Il y a deux documentaires. J'ai oublié le nom du réalisateur, c'est très très mal. Qui sont très bien faites avec des témoignages des gens qui sont c'est vraiment ça prend au trip d'écouter ces gens-là qui ont vécu ces tempêtes de sable. Et pour le dernier, donc, qui n'est pas sorti, je fais une petite parenthèse sur mon prochain roman qui est Nola Forever, donc qui se passe à Nouvelle-Orléans, où là ça va, j'ai été trois fois sur place, fait un tour en Louisiane, donc là ça permet de baigner dans le sujet et vraiment du coup d'être peut-être moins dans le mythe et plus dans le réaliste, même si du coup pour l'occasion ce roman est plus une histoire sur les apparences.
Alors moi je vais régulièrement quand les finances le permettent à New York, parce que j'adore New York. J'ai eu la chance pendant des années que ma sœur vive près de Charleston en Caroline. Là, j'ai adoré la Caroline, mais vraiment adoré, parce que rien m'y préparait. Enfin, je m'attendais pas à ce que c'était. Et en plus, ce qui était très, très bien, c'est que c'était chez ma sœur qui, elle, était américaine. Hein, elle était, donc, c'était vraiment chez les gens. Enfin, de beaux souvenirs. Et puis alors, oui, pour la préparation, c'est pour les trois, c'était un travail énorme. Le premier sur Lilliputia, le parc d'attractions de Coney Island, C'était un travail de fou parce qu'en plus, comme j'aime bien produire une fiction à partir d'éléments vrais, il faut blinder dans la documentation. Donc, et pour Coney Island, c'était pas toujours évident. Des années après, je suis allé à Coney Island et ça a été l'une des plus belles journées de ma vie parce que ça faisait bizarre. C'était ma mec à moi. C'était vraiment la mec des freaks. Mais le Coney d'aujourd'hui est toujours très inquiétant. Hein. On s'écarte un peu des attractions. Et y a eu un très beau film dont le titre m'échappe sur ça, justement, sur la part sombre, ce mélange d'attractions un peu cheap et de dealers et de choses comme ça. Bon, bref, j'ai adoré. Puis après, il y a eu American Gothic, alors là, qui a été peut-être en documentation le travail le plus énorme, puisque ça allait du Boston des lois bleues, donc l'époque de Cotton Mather, le chasseur de sorcières, qui est en plus ami avec Elizabeth Goose, qui va écrire les contes. Enfin, il y a des télescopages comme ça, très étranges, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été... une plongée dans les différentes strates de l'imaginaire. Pour le dernier, la société des faux visages, c'était génial parce que ça permettait de conclure l'ensemble puisque le 28 août 1909, Freud est allé à Coney Island justement et il s'est évanoui. Ça a été trop pour lui et quand il est sorti de ça, il a écrit... qu'il avait été dans l'inconscient à ciel ouvert. Il s'est vraiment évanoui, il a eu un malaise. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il était accompagné par Carl Gustav Jung, qui lui a adoré. Évidemment, quand on connaît un peu les deux, c'est juste normal. Voilà, oui, c'est une belle aventure, cet imaginaire. Parce qu'il est pas, on le subit pas simplement, il est encore très vivant et très curieux. On découvre tout le temps des choses.
Vous avez entendu ce qu'il a dit ?
Je vais le répéter donc. Je disais, les États-Unis, ce qui rejoint ce que dit Xavier, c'est qu'on a ce côté merveilleux et horrible juste à côté. Et donc on adore détester et on déteste adorer cette facette-là. Et là, on est juste derrière le mythe américain justement, parce que quand on fait un pas dans les États-Unis, c'est un peu comme ça, enfin, en tout cas pour moi.
Pour Satinka, il y a énormément de recherches, d'autant plus qu'il y a une partie du livre qui se situe dans le passé, dans les années 1865, et où là, je décris un certain nombre d'événements où j'ai fait énormément de recherches de documentation. Par exemple, le voyage des Irlandais de l'Est vers l'Ouest, je me suis inspirée d'un journal de voyage qui avait été écrit par des Irlandais à l'époque, dans lesquels ils décrivaient les endroits par où ils sont passés, comment ils étaient organisés dans le chariot, etc. Et donc, je me suis servi de cette documentation-là. Pardon ? Oui, aussi. Pour tout ce qui est le côté amérindien, j'ai eu accès effectivement à beaucoup de travaux du département d'anthropologie de Berkeley avec les fameux travaux de Kreuber et des successeurs. Et puis il y a également un département d'études amérindiennes à Stanford et où là j'ai trouvé beaucoup de documentation sur les Chinois parce qu'ils ont en ce moment un projet universitaire qui consiste à essayer de recenser tout le matériel qui est encore disponible, que les Chinois ont apporté avec eux, et puis les descendants qui ont des histoires familiales à raconter, donc essayer de voir comment ça s'est passé, ce que sont devenus tous ces Chinois qui ont participé à la construction du chemin de fer, comment ils se sont intégrés. Enfin, donc là, il y avait aussi beaucoup de matériel. Je me suis servie des archives de la Central Pacific Railway qui ont été mises en ligne. Et donc, notamment, quand je décris le travail sur les chantiers, quand je décris le camp de Donner Pass, là, quand ils construisent le tunnel numéro 6, Summit Tunnel, j'avais les plans du site, j'avais de très vieilles photos des baraquements, j'avais les noms de mes Chinois sont des vrais que j'ai pris sur les payrolls dans les archives, donc c'est des gens qui ont existé. Quand je parle de Harmon Augustus Good, qui était un tueur d'indiens célèbre, pareil, je me suis inspirée de son histoire. J'ai le massacre des Trois Tertres qui est décrit, j'ai pris les notes dans ses carnets parce qu'il consignait ses massacres dans des carnets. Enfin voilà. Et donc là, on a vraiment l'impression qu'on creuse, qu'on est dans l'histoire. Et puis sur l'époque un peu plus récente, bon bah là, je me suis inspirée notamment, bah j'avais des contacts avec des gens qui sont à la Rancheria d'Auburn, donc des descendants d'une tribu Médou, avec qui j'ai eu des échanges par mail. Donc j'ai essayé aussi d'avoir une documentation un petit peu sur le côté moderne. Mais c'est vrai que, comme tu disais, on a vraiment l'impression de plonger dans les dessous de l'Amérique. Là, quand on explore l'histoire, quand on creuse et qu'on est sur les documents bruts, là, on fait remonter des choses. Et c'est aussi intéressant parce que ça croise la réalité avec le mythe et avec les idées qu'on s'en était faites.
C'est parfait, ça va permettre de rebondir, parce que justement, mes plus grosses recherches, ça a été d'éviter les clichés. Parce que moi, j'ai pas du tout l'aspect historique, c'est vraiment un paysage moderne, ça se passe actuellement. Et donc, je le disais tout à l'heure, l'idée de ce roman est née du voyage, donc effectivement, j'avais quand même l'expérience du terrain. Et en fait, ma plus grande inspiration, c'est les gens que j'ai rencontrés là-bas, parce que j'ai rencontré un certain nombre d'Amérindiens, mais alors évidemment, ça restait quand même dans les zones destinées aux touristes, donc c'est quand même, j'avais conscience que c'était à prendre avec des pincettes. J'ai eu la chance de beaucoup discuter avec mon guide dans Antelope Canyon, qui m'a raconté du coup une partie de sa vie, comment il est arrivé à faire guide pour les touristes dans la réserve Navajo. Il travaillait avant à Phoenix, il était venu juste donner un coup de main, et finalement, il a beaucoup apprécié ce contact avec les touristes, et en même temps, dans une région qui était magnifique. Et donc, il m'a un petit peu raconté leur vie. Et ce que j'avais à cœur, moi, de montrer dans le roman, c'est qu'on a tous l'image des Amérindiens avec le vieil Indien à plumes, un peu chaman, un peu mystique, qui est toujours dans leur folklore, mais qui n'est pas leur quotidien. C'est-à-dire que quand on va là-bas, la plupart, on les croise au Burger King, ils sont habillés comme vous et moi. Et du coup, j'avais quand même envie de montrer que c'est quand même très fort pour eux, cette mythologie qu'ils gardent, qui fait quand même partie de leur quotidien, mais qui n'est pas visible tel qu'on l'imagine dans la plupart des films ou simplement dans l'imaginaire collectif. Et du coup, là-dessus, j'ai fait des recherches, mais plus sur YouTube, sur des forums, où j'essayais de voir un peu comment les Amérindiens de maintenant parlaient de leur culture, de ce qui leur restait, avec Standing Rocks, par exemple, qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre. Donc je me suis renseignée, pas forcément sur le combat en lui-même, même si évidemment c'était important pour moi, mais plutôt sur comment les ados d'aujourd'hui, qui ont des origines navarro, réagissaient sur Internet. Il y a aussi une chanson dont je me suis beaucoup inspirée qui est dans le roman, que j'ai trouvée sur YouTube aussi, qui est une chanson qui, dans la mythologie navarro, permet de guérir en partie les maux de tête, etc. Et il y avait énormément de commentaires en dessous, des gens qui demandaient les paroles, la traduction des paroles, etc. Et donc après, il y a un débat en fait, qui s'est mis en place spontanément. Sur est-ce qu'on est un vrai Navajo quand on ne comprend pas ces chansons-là. Et en fait, ces chansons, elles ne sont plus vraiment compréhensibles parce que c'est en peyote, ce qui n'est pas vraiment la langue Navajo, qui est un mélange de tout un tas de langues et qui n'ont pas vraiment de sens. C'est plutôt un sens général, on ne peut pas traduire phrase par phrase. Et donc, j'ai vraiment vu qu'il y avait cette question de l'identité qui était très très forte pour eux, très, très compliquée. Qu'ils avaient envie de la garder et en même temps, ils vivent dans le monde moderne et donc ils sont un peu assaillis de toutes parts par ça. Et donc c'est plutôt là-dessus moi que je me suis penchée pour essayer de traduire un tableau aussi juste que possible, tout en sachant que voilà, on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu, de ce que c'est que qu'être Navajo pour un autre d'aujourd'hui dans la réserve.
Et quand tu parles des Indiens, notamment tu parles du mythe des Indiens tel que nous on le voit avec les plumes, les tipis, les chevaux, etc., ce n'est qu'une partie des tribus, ce sont les Indiens des Grandes Plaines, du centre des États-Unis. Moi, quand j'ai découvert les modes de vie, notamment donc des tribus Yana, dont les Yahi étaient une petite partie, ou des tribus californiennes, c'était absolument... Ils n'avaient pas de chevaux, ils étaient dans les montagnes, ils se nourrissaient de ce qu'ils trouvaient sur place. Certains vivaient dans des huttes à demi enterrées, ça c'était les Médous. Et donc j'ai découvert quelque chose qui ne correspondait absolument pas à l'image de l'Indien tel qu'il est décrit dans les films et dans toute cette mythologie. Et effectivement, le contact avec les gens de la réserve d'Auburn, donc de la Rancheria d'Auburn, sur les problématiques d'aujourd'hui, on retrouve ça effectivement, cet attachement aux traditions, aux racines. Mais d'ailleurs, à un moment donné, je décris, donc Jenny, quand elle va dans la Rancheria d'Auburn et qu'elle rentre dans la maison, elle s'assied, elle regarde et elle voit bon, bah, c'est une maison, il y a une télé avec écran plat, il y a des choses, et elle réfléchit, et d'un coup, elle dit, oui, tu t'attendais à quoi ? C'est des gens qui sont comme toi, quoi, qui vivent dans l'Amérique d'aujourd'hui, donc effectivement, il n'y a aucune raison qu'ils vivent dans des huttes.
Alors, c'est marrant parce que pour synthétiser tout ça, pour les Navarros notamment, à ce moment-là, je vous renverrai à Blackfire, qui est un groupe de punk Navarro, donc qui synthétise en fait les traditions Navarro, mais un côté moderne et donc punk qui fait vraiment le pont entre les deux. Et pour les cultures plus des plaines contemporaines, ce qui est très intéressant à lire, ce sont les mémoires de Mary Crowdog. Qui synthétise vraiment l'évolution moderne et dans les, évidemment, dans les réserves, l'état de pauvreté et tout ce qui va avec.
Je rebondis juste sur ton groupe de punk. Alors, je ne sais plus si c'était Blackfire ou un autre, mais au cours de mes recherches sur la fameuse chanson dont je me suis servie, j'en ai écouté plein de versions, dont des versions très modernes, rappées, techno, etc., qui surprennent, en fait. Mais c'est vrai qu'on reconnaît quand même la mélodie d'origine, mais sur des rythmes beaucoup plus modernes. Ouais.
Vos romans auraient-ils pu avoir un autre décor, un autre ancrage mythique ? Fabien, par exemple, n'aurais-tu pas pu écrire le même roman, pas d'Eusbol, mais Détroit, sur Charleville-Mézières ou sur La Roure, par exemple, où on a le même genre de déliquescence et de désastre économique ? Enfin,
au niveau des ruines, peut-être, mais c'est le seul lien qu'il pourrait y avoir. Détroit, déjà, il y a cette grandeur américaine. Et puis, c'est le cœur des États-Unis, de l'industrie automobile, ce qui est quelque chose qui est très important pour la ville, pour son histoire et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que ça a été vraiment le cœur vivant de l'industrie américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ils ont fait un peu de l'armement, et puis après ça s'est cassé la gueule, après il y a les subprimes, et puis après on arrive en 2008, et là, la ville est vraiment en banqueroute. Et puis il y a toute cette histoire culturelle, musicale qui va avec. Il y a l'Underground Railroad, c'est-à-dire les réseaux de Noirs américains qui remontaient vers le nord pour fuir l'esclavage, ben, ils s'arrêtaient aussi à Détroit avant d'arriver au Canada. Et c'était la main-d'œuvre pour les ouvriers dans les années 50-60. Ça a déclenché des émeutes. Enfin, il y a toute une histoire qui ne peut pas être transférée dans le nord de la France, comme Dust Bowl ne peut pas être juste une tempête sur la plage de Marseille, quoi. C'est vraiment très très différent et ouais, non, c'est pas possible.
Xavier, cette rencontre entre deux personnages mythiques aurait-elle pu avoir lieu ailleurs ?
Concernant Freud et Houdini, alors non, indépendamment des circonstances qui sont vraiment new-yorkaises, non, parce que ils viennent du même endroit, ce sont deux juifs d'Autriche-Hongrie au départ, et justement le fait qu'ils se retrouvent à New York les défamiliarise les deux. Mais par contre, j'ai fait ce coup-là déjà avec deux juifs d'Autriche-Hongrie, avec Kafka à Paris, c'était c'est une sorte de variation. Mais là, c'est proprement new-yorkais, même plus qu'américain, parce que les problèmes ou les joies qu'Houdini et Freud rencontrent sont celles d'un pays jeune, neuf, avec alors, une mythologie justement nouvelle. C'est rarissime, ça, quand on s'intéresse aux cultures, puis tout le monde s'intéresse aux cultures ici, de voir une mythologie naissante. Les nôtres, bien souvent, sont très anciennes. Avec la serre, tu vois, sont des mythologies qui même... oui, voilà, et puis qui sont tellement parfois dans notre quotidien qu'on en oublie même, qu'on en est saturé parfois. Alors que la mythologie en partie américaine, elle est en devenir. Elle naît, par exemple, Buffalo Bill est le contemporain du Buffalo Bill inventé. Il évolue en même temps que le personnage de fiction qu'on en a tiré. Houdini est une légende qui est en train de se créer elle-même avec les avantages, les inconvénients. Les inconvénients, c'est cet ego. C'est un personnage exagéré en tout point. Donc c'est ça qui m'intéressait, qui fait que ça pouvait être unique. Puis la mythologie américaine, elle est étonnante parce que pour une grande part, ce n'est pas une mythologie qui est tournée vers le passé, mais elle est tournée vers le futur. C'est la science-fiction.
Sylvie, un autre peuple, une autre mythologie n'aurait-elle pas pu raconter la même histoire ?
Là, on est de toute façon dans une histoire de fantasy urbaine avec un personnage qui suit une quête. Mais moi, je voulais absolument le situer en Californie, le rattacher à ce moment particulier de l'histoire qui est, pour bien des raisons, qui est impressionnant pour nous. Parce que c'est un pays en construction, des immigrés de diverses origines qui se rencontrent et qui vont d'ailleurs fabriquer le fameux melting pot. Enfin, donc ça ne pouvait pas être autrement, puisque j'ai raconté d'autres histoires avec d'autres mythologies, par exemple dans la Serre. Je travaille là sur un projet de roman qui va démarrer en Haute-Loire, dans le massif du Mézin, pendant la Première Guerre mondiale. Donc les hommes sont partis à la guerre, il ne reste que les femmes, les enfants et les vieux. Et donc il y a une histoire là qui, pour le coup, va s'appuyer sur des mythes de terroir, sur une histoire bien française, qui va ensuite basculer sur autre chose. Bon, je commence à peine à y travailler, donc je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller. Mais voilà, là, j'avais envie de travailler sur un truc qui démarre en France. Mais là, spécifiquement, cette histoire-là, bon, ça reste une quête d'un personnage de fantasy qui se découvre des pouvoirs, on aurait pu le situer à d'autres endroits. Mais ce qui fait l'intérêt du récit, c'est aussi l'environnement dans lequel on le situe. Et ce qui fait aussi l'intérêt de Satinka, c'est de voir le comparatif entre la vie d'aujourd'hui aux États-Unis, le passé vers lequel on retourne, les traces que ça a laissées, donc la transmission qu'il y a eu, en quoi ça a influencé ensuite le futur. Et donc c'était particulièrement intéressant que ça se déroule spécifiquement à cet endroit-là.
Et Agnès, une autre tradition aurait-elle pu aider vos héroïnes ?
Alors déjà, moi, il y a quand même la moitié du roman à peu près qui se passe en France. Et effectivement, j'aurais pu me dire, en fait, la moitié du roman qui se passe en France est très contemporaine, il n'y a aucune magie. Et c'est l'histoire donc, d'une jeune fille qui vient d'apprendre qu'elle va passer toute sa vie à béquille avec une grosse douleur à la cheville et qui va réapprendre son quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est de vivre quand on va au lycée et qu'en sortant du lycée, au lieu de rentrer chez soi ou de sortir avec les copines, on va chez le kiné. J'aurais pu m'arrêter là, faire une histoire là-dessus. Cela dit, des histoires sur le handicap, il y en a beaucoup. En général, elles sont assez déprimantes et elles sont difficiles à lire, à la fois pour les concernés qui le vivent et qui ont du mal à passer au-dessus, et pour les non-concernés qui n'ont pas envie de le vivre et qui se retrouvent forcés de faire face à ce quotidien. Donc moi, j'avais besoin d'une partie d'action, d'aventure, pour alléger un peu le propos, et surtout, moi je veux une héroïne battante. Le principe de Sora, c'est qu'elle décide que c'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle peut pas devenir une super-héroïne. Alors une super-héroïne, pas forcément avec des pouvoirs, mais en tout cas elle fait ce qu'elle peut dans son quotidien. Et du coup j'avais besoin d'une partie d'action. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un road trip, parce que j'en fais souvent pendant mes voyages, et je trouve que ça se prête très bien au roman. Ensuite, est-ce que ça aurait pu être ailleurs que dans le pays navarro? Forcément, j'ai envie de dire non, parce que j'avais besoin de cette notion de ozo qui est au cœur de leur, comme j'en parlais tout à l'heure, qui est au cœur de leur culture. Après, si j'avais eu connaissance d'une autre culture qui avait cette même notion de santé, éventuellement, mais quand on écrit un roman, c'est impensable en fait de l'imaginer ailleurs. Tout est tellement imbriqué pour nous que c'est difficile de dire oui en fait à cette question.
Et n'avez-vous pas eu un moment donner peur d'être accusé d'appropriation culturelle, d'être accusé d'imposture en parlant d'une mythologie d'un pays qui n'est pas le vôtre?
Évidemment, on se pose la question et on nous pose souvent la question. J'ai mis un point barre à cette question depuis quelques temps, dans la mesure où, donc, dans Détroit, mon héros est un jeune homme, le héros principal, un jeune homme noir. Donc on aurait pu se dire que je suis un Européen blanc, classe moyenne, enfin voilà, que je ne correspond pas du tout aux critères pour parler à ça, par sa bouche. Le point de stop de tout ça, c'est On est de la fantasy et par exemple, je ne connais pas d'auteur elfe qui parle de la condition elfe. Donc à partir de là, on peut tout se mettre à la place de n'importe quel narrateur. Et il n'y a pas de raison, tant qu'on respecte le sujet, tant qu'on respecte les personnes, de trahir ça, évidemment. Pour respecter, ben, il faut se documenter, comme on l'a tous fait, a priori, et pas salir quoi que ce soit de ce qu'on emprunte. Mais comme quand on voyage, quoi, quelque part, on va ailleurs, ben, on respecte les coutumes locales et ce genre de choses. Et voilà. Après, parce que je vois l'heure qui tourne, je voudrais quand même une petite parenthèse avant de finir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, mais comme les gens s'intéressent a priori aux États-Unis, il y a une très bonne revue qui s'appelle America, que je vous invite tous à découvrir. J'ai pas du tout d'action, je connais personne là-dedans, mais c'est des auteurs américains faits par un éditeur français, et ça donne vraiment des horizons très très différents sur les États-Unis. C'est très enrichissant.
Alors moi, j'ai pas eu peur qu'on puisse me taxer d'appropriation culturelle, parce que la peur, c'est vraiment pas un motif que je prends en considération au moment où je vais écrire, ni avant, ni pendant, ni après, vraiment. Par contre, dans le souci d'écrire sur l'Amérique, il y avait, mais dans le projet, c'était mon projet, pas dicté par l'extérieur, mais intentionnel, le fait que le personnage central devait être européen, parce que tout simplement, c'était aussi une interrogation sur... sur moi, sur nous, quel est notre rapport à la culture américaine?
Alors, je vais un petit peu aller dans le sens de ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que bon, moi, j'avais envie de décrire un petit peu l'histoire des États-Unis. C'est de la fantasy urbaine. C'est ma vision d'auteur sur toute la partie historique. Ben voilà, j'ai vraiment essayé de verrouiller par des recherches en cadrant au maximum avec ce qui s'est passé. Après, dans l'évolution de mon personnage, qu'elle soit américaine, européenne ou autre, ça reste quand même une jeune femme qui est à peine sortie de l'adolescence et qui est aux prises avec des problèmes d'identité parce qu'elle a des origines multiples, etc. Et voilà, donc après, c'est un petit peu plus le personnage, enfin l'archétype de la quête en fantasy, etc. Et on m'a jusqu'à présent pas fait de réflexion effectivement là-dessus, puisque ça reste quand même une vision un petit peu contemporaine. Et puis ben voilà, c'est ma vision d'écrivain. Donc
plus que d'avoir peur qu'on me taxe de m'approprier une culture, ce que je ne pense pas faire, puisque j'ai aussi pris une héroïne qui est française. Alors, elle a une mère indienne, mais elle a vécu en France et sa mère ne lui a pas transmis grand-chose. Donc, elle découvre la culture comme n'importe quel Européen pourrait la découvrir. Donc, j'ai pris pas mal de pincettes là-dessus. En revanche, j'ai eu peur de dire des bêtises, d'où mes recherches sur les clichés tout à l'heure. Et vous n'imaginez pas mon soulagement le jour où j'ai une lectrice qui est venue en salon, qui a commencé avec le livre dans les mains à me dire « je suis spécialiste, je suis une anthropologue spécialiste des Navarros ». J'étais comme ça. Hein. Et elle m'a regardée d'un air sévère et elle m'a dit « je vous attendais au tournant, mais ça va, vous n'avez pas dit de bêtises ». Et là, c'est bon. Donc effectivement, vraiment plus la peur de dire des bêtises, parce qu'on a beau se renseigner, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est vrai qu'on peut dire des énormités. Donc faire voilà, autant de recherches que possible et bien montrer que ce qu'on dit nous, ce n'est pas forcément la vérité universelle, c'est une façon de voir une culture qui est très vivante, très diverse, comme on disait. Donc voilà.
Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle ? Personne ? Les auteurs présents autour de cette table n'ont pas écrit sur le Canada.
Je suis en frontière avec Détroit.
Ce n'est pas moi qui ai trouvé les titres de la table ronde. C'est pour ça que j'ai parlé de mythologie états-unienne dans mon introduction. Mais aucun de ces auteurs n'a écrit sur le Canada. Je ne pouvais pas leur poser de questions par rapport à la culture canadienne.
Il y avait trop de Canada aussi en, aux imaginales pour prendre le risque de dire une bêtise.
Il y avait ça aussi.
Non, non, nous, on a bien, enfin moi, personnellement, j'ai bien affiché le fait que j'écrivais sur les États-Unis. De même que souvent, quand on parle de l'Amérique, moi, je suis hispanophone et un spécialiste aussi de SF latino-américaine, ça hérisse le poil des personnes quand on dit les Américains en parlant des États-Uniens, de dire, bah, nous, on est où ? Parce que effectivement, les Américains, c'est le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
C'est pour ça que j'ai bien précisé dans mon introduction qu'on parlait de mythologie états-unienne. Elisabeth, je suis désolée, je ne suis pas responsable de de choses.
Mais c'est vrai qu'effectivement, moi je me suis fait la réflexion quand j'ai vu les auteurs présents sur la table ronde en disant « Mais là, on a quand même une belle délégation canadienne, puisque c'est le pays invité cette année. » Et c'était un thème, effectivement, en plus, sur lequel certains d'entre vous ont écrit. J'ai été surprise en disant « Tiens, on aurait pu mettre effectivement un ou deux de ces auteurs. » Mais bon, là, voir la programmation du festival.
Bien, merci à tous.
Merci.
Merci à toi.